autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, auditrices, locuteurs et locutrices, pour nous demander depuis quand parlons-nous? Comment la parole a-t-elle émergé chez nos ancêtres humains et préhumains? Que nous apprennent les vocalises des babouins, le crâne de Néandertal et le babillement des bébés sur l'émergence de la parole humaine? Question réouverte par nos invités, les chercheurs en sciences de la parole et en sciences cognitives, Louis Jamboé et Jean-Luc Schwartz, qui viennent de démontrer dans une étude pluridisciplinaire parue dans la prestigieuse revue Science Advances, fruit d'une vingtaine d'années de recherche, que l'émergence de la parole est bien plus ancienne qu'on ne le pensait, brisant ainsi au passage un dogme adopté par toute la communauté scientifique. L'émergence de la parole n'est pas l'apanage de notre espèce Homo sapiens, elle n'est pas liée à la fameuse théorie de la descente du larynx. La possibilité anatomique de la parole, la capacité d'utiliser son conduit vocal pour émettre des sons articulés et des voyelles, est partagée par nos ancêtres et cousins primates, préhumains et bien sûr humains. Une vraie révolution dont on n'a pas fini d'entendre parler autour de la question « Depuis quand parlons-nous ? » Bienvenue. Bonjour Jean-Luc Schwartz.
Bonjour.
Bonjour Louis Jamboé.
Et bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Isère. Pourriez-vous nous dire ce que l'on entend là à l'instant, ces grognements, c'est ça? Vous pouvez nous dire ce qu'on
entend? Ah ben oui, tout à fait. Tout à fait. Alors moi, je préfère le mot « grunts » en anglais, dans la mesure où c'est plus que les grognements. C'est quand même des vocalisations à usage social. Alors ces grunts, souvent, ce sont les hommes, les mâles qui les émettent.
Oui, parce qu'il s'agit de babouins.
Oui, il s'agit de babouins, papio. Mais enfin, si vous voulez, les grognes, c'est un peu une vocalisation générique chez les singes. On les trouve dans différentes catégories de singes, vraisemblablement parce que la disposition de leur conduit vocal au naturel leur facilite la tâche, peut-être. Mais en tout cas, c'est un son qui est très agréable dans une communication sociale. Bon, c'est à l'adresse des nourrissons et des mères pour susciter l'interaction. Ce sont des mâles pour inciter une femelle à copuler. Ce sont les mâles satisfaits après la copulation. Et le plus fréquent, c'est quand ils mangent ensemble. Donc c'est une vocalisation de convivialité à laquelle vous nous invitez tout de suite, voilà.
Eh bien voilà, vocalisons convivialement avec les babouins. En tout cas, merci infiniment à tous les deux, à Louis Jamboé et Jean-Luc Schwartz, de nous avoir fait passer ces sons absolument inouïs, enregistrés par l'équipe de Joël Fago au laboratoire de psychologie de Marseille, qui a donc enregistré un millier de vocalisations de babouins en semi-liberté. Allez, je propose d'en écouter tout de suite un autre, juste pour le plaisir, c'est le cas de le dire, puisque ces sons-là sont émis, je crois, pendant la copulation. Les babouins ont l'amour bruyant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, Louis Jamboé, dans tous ces sons différents?
Ben écoutez, en fait, lorsque nous parlons, nous attendons d'un interlocuteur qu'il donne une réponse. Donc nous associons du son à du sens et nous attendons une réponse vocale qui ait du sens. Lorsque les babouins échangent des vocalisations différenciées, eh bien, ils n'attendent pas un son de la part de leurs congénères, ils attendent une réaction sociale. Et là, effectivement, ce sont des sons de copulation émis par les femelles lors de la copulation. Et là, vous avez pris un montage qui est effectivement, on a découpé, à partir de la base de données qu'a enregistré Joël Fago, on a découpé les petits bouts de son, les a mis bout à bout, ça donne une coloration, si vous voulez. Bon, manifestement, ce sont des sons qui sont associés au plaisir, il faut bien le dire.
Jean-Luc Schwartz, alors vous êtes chercheur en sciences cognitives, médaille d'argent du CNRS pour vos travaux sur la nature des processus cognitifs qui gouvernent la communication parlée. Vous êtes directeur de recherche au GIPSA Lab, hein, le laboratoire dans lequel vous êtes professeur émérite également, Louis-Jean Boé, qui est donc un laboratoire sur l'étude de la parole à l'Université de Grenoble. Tous les deux signataires donc, de cette étude parue dans Science Advances, qui démontre donc comment les singes, les babouins, n'ont apparemment pas eu besoin d'attendre que leur larynx ne descende pour émettre des sons, et plus particulièrement des voyelles. C'est ça, c'était vraiment un dogme de la communauté scientifique que seuls Homo sapiens, seuls nous, les hommes modernes, entre guillemets, pouvions anatomiquement parler?
Eh bien, écoutez, vous faites allusion à un article qui a été publié le 11 décembre 2019 dans Science Advances. Et cet article-là, c'est un article qui a été fait par 4 laboratoires français, un laboratoire canadien, un américain. En particulier, nous avons bénéficié évidemment des enregistrements qu'a fait Joël Fagot. Donc ce sont des laboratoires pluridisciplinaires. Vous avez des sciences cognitives, vous avez de la parole, vous avez de l'anthropologie, vous avez de la linguistique. Et c'est cette revue de questions qui nous a été demandée par Science Advances. Elle fait le bilan de 50 ans de recherche sur la production des sons, des vocalisations des singes. Et donc, évidemment, on a été amené à montrer comment ces vocalisations ont été analysées différemment, ont été produites dans le champ scientifique avec des théories différentes. Et nous avons largement insisté sur le fait que les équipes qui ont été menées pendant 20 ans autour de GIPSA Lab ont essayé de montrer qu'une théorie dominante, jusque-là une espèce de doxa, à laquelle s'était rallié bon nombre de chercheurs en primatologie, mais aussi en linguistique, on ne peut pas le dire, non, mais en primatologie surtout, s'était rallié. Cette doxa disait qu'effectivement, les singes ne pouvaient pas produire des sons différenciés, pas plus que les bébés, pas plus que l'homme de Néandertal.
Oui, c'est une donc, théorie qui avait été mise au point, la théorie de la descente du larynx, auquel, comme vous dites, tout le monde avait adhéré, avait adopté, et mise en 1969 hein, par Philippe Liberman.
C'est cela.
Et c'est pas contre cette théorie, mais c'est vraiment aussi une aventure scientifique, parce que vous n'y croyiez pas, finalement, à cette théorie. Vous vous disiez, c'est un peu trop simpliste, peut-être, ou ça arrange peut-être trop tout le monde de penser que seulement nous, les Homo sapiens, avons l'anatomie pour pouvoir parler.
Écoutez, il y a deux choses. C'est pas une théorie très simple. La façon dont elle a été élaborée, elle n'est pas très simple. Elle part toujours d'une observation. Cette théorie s'élabore avec observation et puis hypothèse. Liberman considère observe la position du larynx, enfin, elle est bien connue, la position du larynx chez les singes, chez les bébés, et il en induit celle de Néandertal pour dire, écoutez, regardez, ils ont tous un larynx très haut, et donc ils ont un petit pharynx, et c'est ça qui les empêche de parler. Mais en fait, il va utiliser quand même un paradigme scientifique assez élaboré en 1969, c'est-à-dire qu'il va faire des moulages de conduits vocales de singes, il va faire des moulages de conduits vocales de bébés, et puis il va faire une simulation informatique de haut niveau. Et cette théorie étant si vaste, puisqu'elle couvrait la phylogénèse et l'ontogénèse, la phylogénèse de Néandertal, les singes et nous-mêmes, et l'ontogénèse, les bébés, qu'il était difficile, effectivement, de prouver le contraire. Voilà. Donc, ça n'a pas été très facile. Et pourquoi ça a arrangé tout le monde? Vous avez tout à fait raison de le dire. C'est que, des années 30 aux années 50, des couples de psychologues américains, vous savez que les Américains font souvent des expériences très, très tranchantes, ont élevé avec leur bébé, donc ils ont prévu d'adopter un petit bébé singe qui naîtrait à pratiquement un petit chimpanzé, qui naîtrait en même temps que leur bébé, et de l'élever en même temps que ce bébé-là, et leur apprendre de pouvoir son développement cognitif à ce chimpanzé.
Et en même temps que leur bébé.
De l'élever.
Et de lui apprendre à parler.
Ce qui est psychomoteur. De lui apprendre à parler, mais pas uniquement le psychomoteur, le déplacement, etc. Et donc, ça s'est soldé par un échec. Le premier singe, le premier chimpanzé n'a rien appris. Et le second a appris 5 mots. Hop, que, petit, papa, maman. Et encore, quand on les écoute, on s'aperçoit qu'il faut mettre beaucoup de bonne volonté pour le reconnaître. Et donc, il fallait trouver une raison à cette impossibilité de parler. Et Liberman vient à point en 1969, donc quelques années après, pour dire, écoutez, l'expérience ne pouvait pas réussir puisqu'ils ont un petit pharynx. Voilà, et ça a arrangé pas mal de gens aussi qui considéraient que si Néandertal ne parlait pas, c'est pas plus mal. C'est-à-dire que la primauté du langage, c'était l'homme qui l'avait. Et puis ça arrangeait pas mal de gens au niveau philosophique, au niveau religieux aussi.
C'est ça, donc, on en restait au fait qu'il y avait que nous qui parlions et que même les bébés, parce que ben oui. Jean-Luc Schwartz, vous avez vous aussi travaillé sur la question de la parole, sur les possibilités ouais. cognitives de la parole. Et effectivement, les bébés, ils ont aussi un petit pharynx et pourtant ils babillent, on y viendra. Néandertal, on y viendra aussi. On ne sait pas s'il parlait vraiment, mais en tout cas... Il avait la capacité, ce qui veut dire en fait que la capacité de parler dépend pas de notre anatomie. C'est plutôt une question cérébrale, une question cognitive, une question plus qu'une question de conduit finalement, de tuyau, c'est ça ?
Voilà, c'était ça. Alors je me glisse, hein, tout à l'heure vous m'avez annoncé et puis j'ai laissé continuer Louis-Jean parce que voilà. il faut avoir en garde qu'effectivement c'est un... Cet article qu'on a publié en décembre dans Science Advances, qui est un article un peu bilan d'une vingtaine d'années de recherche interdisciplinaire, plus que 20 ans, et qui est signé d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs de ces recherches depuis longtemps. C'est vraiment Louis-Jean qui en a été le fil conducteur pendant toutes ces années, et c'est lui qui raconte bien cette histoire-là, donc je voulais laisser cette continuité-là. En fait, l'idée, hein, qui est exactement celle que mentionnait Louis-Jean tout à l'heure, c'est que il y a effectivement cette similitude réelle au niveau anatomique de la position du larynx. Les bébés ont un larynx élevé par rapport aux adultes. Le larynx baisse plus tard dans la croissance. De la même manière que les primates non humains ont un larynx comparativement plus élevé que ceux des humains. Puis il y avait l'hypothèse que c'était le cas chez Néandertal. Et il y a donc cette hypothèse que, tiens, c'est la position du larynx qui fait la parole. Pour la raison un peu d'explication magique ou d'explication puissante que Louis-Jean mentionnait tout à l'heure. Et une des clés du travail qui a été fait dans notre laboratoire depuis des années, en s'appuyant alors pour le coup sur des recherches très classiques sur l'acoustique de la parole, c'est que si on comprend bien comment marche l'acoustique d'un tuyau, puisque le conduit vocal c'est un tuyau dont on module la forme, eh bien on peut comprendre, alors on va pas expliquer là comme ça, mais c'est ce qu'on peut très facilement comprendre avec les théories de la physique, que c'est pas un problème d'avoir un tuyau plus ou moins grand pour une taille donnée de tuyau. L'important c'est d'être capable de moduler, de changer sa forme de manière efficace, de positionner sa langue vers l'avant ou vers l'arrière, vers le haut ou vers le bas, de fermer ses lèvres ou de les ouvrir. Et si on sait faire ça, si on a les moyens de contrôler la musculature et de changer la forme du tuyau, alors on peut produire les voyelles qu'il faut et les vocalisations qu'il faut pour faire de la distinctivité, de la capacité à faire des modifications de timbre qu'on va percevoir. Donc en gros, le résumé de l'histoire, c'est pour faire de la parole, il faut faire des sons qui se distinguent. Pour faire des sons qui se distinguent, il suffit d'avoir un tuyau dont on module les formes. Ce tuyau, on n'a pas besoin d'avoir un larynx élevé pour en moduler les formes. La vraie question, c'est comment on module ses formes en bougeant sa langue avec le cerveau qu'il faut. Et c'est là où on vient dans la question des sciences cognitives. Et on peut poser la même question pour le bébé, pour l'adulte, pour le singe ou pour Néandertal.
C'est ce que vous avez fait, tous les deux. Un petit instant, Louis-Jean Boé, parce que j'aimerais bien m'arrêter d'abord sur ce que vient de dire aussi Jean-Luc Schwartz, sur les voyelles principales qui sont distinctes, parce que vous avez sélectionné des voyelles primordiales, A, I, U, qui sont présentes dans absolument toutes les langues. Alors, on reviendra sur le fait qu'on ne parle pas de langue, qu'on parle de parole. Mais avant de vous laisser continuer, j'ai envie de vous faire écouter un petit mix de sons, un petit condensé des langues pratiqué ici à la rédaction de RFI avec un mix parole et voyelle à décrypter. Alors, en grec, en chinois, en persan, en brésilien, en français, en créole, en polonais, en hébreu, en vietnamien, en syriaque, en morée et même en quelques langues inventées. Allez, on écoute ça, c'est parti.
Bon, alors allez-y, je vous écoute.
Restez toutes, sœur. Chauflaque.
Iou.
Majnounati.
Oh, 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 eh ouais.
Ozodi.
Ayangabaou.
Yaourt.
Vish venir se déhèche, sœurs. Veni mira, ma bosso son main.
Timoun. Bukovina.
Barou Rachem.
Et quoi?
Aïlona.
Matia Kouali.
A, I, U, ce sont ces voyelles qu'on entend, c'est ce que vous avez repéré dans les enregistrements, dans toutes les langues du monde, ou presque, du chinois au morée, ce qu'on vient d'entendre, du persan au vietnamien, en passant par quelques langues inventées.
Voilà, ce qu'on entendait bien, alors c'est pas nous qui l'avons repéré, hein, c'était quelque chose qui était connu de manière ancienne à partir de bases de données des langues du monde et un certain nombre de bases existantes. On s'est beaucoup appuyé sur une base développée par un Américain qui s'appelle Ian Madison, mais il y a d'autres bases existantes comme ça qui essaient de recueillir les langues du monde pour voir justement en quoi elles sont différentes ou semblables. Et ce qu'on a bien entendu dans votre exemple, hein, c'était très clair, c'est que les voyelles se baladaient entre A et I, O, U, qui sont à peu près les voyelles stars dans les langues du monde, et notamment les trois plus distinctes possibles les unes des autres, qui sont le A, le I et le U. Elles sont distinctes parce que si on regarde leur forme acoustique, si on les analyse avec les lois de l'acoustique, on se rend compte qu'elles ont des paramètres caractéristiques qu'on appelle les formants, qui sont les plus extrêmes possibles. C'est-à-dire que si on met toutes les voyelles qu'on est capable de prononcer avec sa bouche et qu'on projette ces sons dans un espace géométrique pour voir quelle est la forme de ces sons, eh bien, on va se rendre compte que toutes ces voyelles se projettent dans une forme à peu près triangulaire. Et les bords du triangle, il y a le A d'un côté, le I d'un deuxième et le U d'un troisième.
Ah oui, ce sont vraiment des bords les plus distincts.
C'est des bords. Mmh. Voilà, c'est les sommets, ça c'est de la physique. Et puis la linguistique, elle nous dit, ben tiens, ça tombe bien. Quand une langue n'a que trois voyelles, en général c'est A, I, U. Quand elle en a cinq, il y a A, I, U dedans. Quand elle en a sept, il y a A, I, U dedans. Et donc on a une jolie correspondance entre de la physique et du langage. Au fond, c'est la même histoire que la théorie du larynx, hein, même s'il y en a qui sont justes et peut-être d'autres qui fonctionnent moins bien. Mais c'est l'idée que les langues du monde exploitent les capacités de notre anatomie et de notre contrôle moteur. Et là, l'anatomie suffisait à expliquer A, I, U. Voilà, A, I, U, c'est ce qu'il y a de plus distinct et c'est ce qu'on trouve dans toutes les langues.
Alors, par rapport à cette question des langues, du langage, de la parole, je voudrais tout de suite mettre au point quelque chose qui rejoint d'ailleurs une question d'un de nos auditeurs en Haïti, Valentino Ravjean, qui d'ailleurs est étudiant, nous dit-il, en sciences du langage. Il dit « J'ai du mal à comprendre les différences entre langage, langue et parole. » Là, nous parlons de la parole, on est bien d'accord, on ne parle pas de la langue ou du langage, c'est ça, hein ?
Oui, on peut considérer que la faculté de langage, c'est la faculté des humains à échanger du sens à partir d'un système de communication incroyablement puissant qu'on appelle le langage, qui permet en gros de parler d'une infinité de choses avec une infinité de subtilités et avec des moyens de communication qui permettent cette puissance et cette rapidité.
Ça c'est proprement humain, le langage, hein.
Voilà. Alors, ce langage, il a évidemment des déclinaisons différentes qui sont les langues et qui ont chacune leur déclinaison. Et puis, il a des outils pour avoir cette efficacité. Et ces outils, des outils de base, c'est ce qu'on appelle la syntaxe ou la grammaire, c'est-à-dire la capacité à prendre des mots, à les combiner ensemble et à faire des phrases de plus en plus complexes par de la combinaison de choses. Une des propriétés, par exemple, qui a intéressé beaucoup les linguistes et qui a amené à énormément de débats autour de l'origine du langage, c'est ce qu'on appelle la récursivité, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des boucles. La copine de la fille, du voisin, du grand-père dont j'ai vu. Voilà. Ça, c'est le langage. Dans le langage, une des composantes, c'est la capacité de produire le langage avec la bouche. Et là, on arrive à ce qu'on appelle le langage articulé ou la parole. Pour mémoire, il faut quand même qu'on ait tous en tête, même si on ne va pas en parler aujourd'hui, qu'il y a d'autres formes de langage, comme le langage des signes, qui n'utilisent pas la bouche et qui sont aussi respectables, aussi puissantes et aussi profondément humaines que le langage oral. Voilà. C'est pour ça qu'on est en permanence très attentif avec Louis-Jean et avec tous les collègues du domaine, hein, forcément, à bien rappeler la différence entre ce que nous on appelle la parole, c'est-à-dire ce langage articulé dans les capacités de la bouche à produire des sons, des voyelles, des consonnes, des syllabes, et puis le langage qui est un système beaucoup plus complexe avec des niveaux environnant cette capacité de parole. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclaire sur cette différence.
Complètement, sur la différence et sur le fait qu'aujourd'hui, nous parlons vraiment de la parole et de la manière dont on peut parler, et de la manière aussi, Louis-Jean Bouet ou Jean-Luc Chard, de la manière aussi dont finalement on utilise des organes qui n'ont pas été anatomiquement prévus, entre guillemets, pour parler. C'est ça. En fait, c'est un détournement d'organes pour produire des sons.
Voilà, vous avez mis le doigt sur ce qui va nous permettre effectivement de travailler sur l'émergence de la parole. Si vous voulez, l'émergence de la parole, c'est le moment où on utilise des organes qui ne sont pas du tout faits pour ça, vous l'avez dit. Vous avez les lèvres qui sont faites pour sucer, vous avez les dents qui sont faites pour mastiquer, vous avez la langue qui est faite pour déglutir, vous avez les poumons qui sont faits pour respirer. Eh bien, on a détourné, on a capté, on a fait une opération, on dit opportuniste, si vous voulez, tout d'un coup. Les cordes vocales, c'est pour boucher la trachée quand on avale, sinon on fait une fausse route. On a fait donc un détournement opportuniste et vraisemblablement, nos ancêtres en tout cas, ont à un moment donné découvert qu'il pouvait pousser des cris, puis s'il poussait des cris en bougeant la langue, c'était pas le même cri, et s'il bougeait les lèvres, c'était encore de nouveau pas le même cri, qu'il bougeait la mandibule. Et donc, si vous voulez, on va pister, on va traquer le moment où nos ancêtres ont commencé à faire autre chose avec leur bouche, avec leurs poumons, que de mastiquer, de déglutir. Et ça, c'est quand même très, très important. C'est le point de départ. Et ce point de départ, il va être capital parce que, si vous voulez, de quoi dispose-t-on pour savoir si nos ancêtres parlaient ? De quoi dispose-t-on ? On dispose de fossiles, qui sont des os. On n'en a pas suffisamment encore, mais de toute façon, avec des os, c'est très difficile de reconstruire.
Il n'y a pas d'enregistrement mais il y a des techniques que vous avez utilisées d'ailleurs sur le crâne de Néandertal. On va y revenir. Louis-Jean Bouet, autour de la question « Depuis quand parlons-nous ?» J'ai envie de poser une autre question à Jean-Luc Schwartz. Depuis quand chantez-vous, Jean-Luc, dans les Jeux de la Tribu, groupe de folklore vocal imaginaire, rien que ça, auquel vous avez donc collaboré dans les années 90. On écoute tout de suite un extrait de l'album « Les Jeux de la Tribu », Cantata Atypica. Oui, atypique, c'est le moins qu'on puisse dire sur RFI. Ça déménage. Les Jeux de la Tribu, Cantata Atypica sur RFI, extrait de votre album, Jean-Luc Schwartz, de folklore vocal imaginaire, entièrement composé d'onomatopées et de langues inventées. Est-ce bien sérieux pour un chercheur en sciences cognitives, spécialiste de la parole et médaille d'argent du CNRS, tout de même au passage?
Alors, je ne vais absolument pas vous répondre à cette question, mais je vais vous dire que les Jeux de la Tribu, c'était un groupe vocal composé de Geneviève Burneau, Nelly Frenou, Véronique Kirkacharian, Michel Mazzilli, Frédéric Pagès, Antonio Placer et moi-même. Et que oui, c'était une belle aventure qui se poursuit par certains d'entre nous dans d'autres voies vocales, mais que la voix, c'est quelque chose qui nous a passionnés ou qui continue à me passionner comme humain, indépendamment de mon boulot.
Voilà, c'est un bel organe. Et qui nous passionne à nous aussi, auditeurs de RFI. Alors, Louis-Jean Bouet, vous avez, on le disait à l'instant, travaillé sur, alors non pas les fossiles de voix, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas d'enregistrement des voix de Néandertal, mais vous avez tout de même travaillé sur des modélisations de crânes de Néandertal pour comprendre quels sons pouvaient être produits par nos ancêtres. Je vous propose de les écouter, ces sons, dans cet extrait d'Autour de la question, mais oui, présenté par mon camarade journaliste et bioacousticien Antonio Fischetti.
Écoutons par exemple alors ces voyelles I, A, U à partir, disons, de la modélisation d'un conduit vocal d'homme moderne, c'est-à-dire vous et moi.
I, A, U.
Cette fois à partir de la simulation d'un conduit vocal reconstitué à partir de crânes d'hommes il y a 50 000 ans.
I, A, U.
La même chose avec des hommes de 100 000 ans.
I, A, U.
Vous avez fait la même chose donc avec des badagas de l'homme moderne. Badaga il y a 50 000 ans.
Badaga.
Badaga il y a 100 000 ans.
Badaga.
Extrêmement impressionnant, Louis-Jean Bouet, autour de la question « Depuis quand parlons-nous ? » Il y a 100 000 ans, on peut imaginer que les voix de nos ancêtres étaient comme ça, donc étaient plus graves, c'est ça ?
Alors, elles étaient plus graves. Alors, il y a deux façons d'avoir des sons graves. Est-ce que vous avez des cordes vocales plus épaisses et plus grosses, ça va faire un son plus grave. Mais est-ce que vous avez un conduit vocal plus long ? En ce qui concerne les cordes vocales, on peut imaginer, étant donné leur robustesse néandertalienne, qu'ils avaient des cordes vocales un peu plus épaisses. C'est pas du tout sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils avaient un conduit vocal plus long. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un pharynx qui était exactement, pratiquement le même que le nôtre, mais ils étaient beaucoup plus prognates. Donc, si vous voulez,
c'est-à-dire le menton en avant, c'est ça ?
C'est ça. Le menton n'était pas rentré, le tiroir dentaire n'était pas rentré, la face n'était pas rentrée. Et donc, ils avaient effectivement une face plus longue, si vous voulez, ce qui fait que, au lieu d'avoir 17 cm, c'est à peu près la longueur du conduit vocal moyenne d'un homme, eh ben, ils devaient avoir 19 cm, évidemment. Ça abaisse, ce que Jean-Luc a parlé, et ça abaisse les résonances du conduit vocal et ça donne des sons plus graves. Voilà. Alors, il faut bien dire quand même que ces reconstitutions sont des reconstitutions hypothétiques.
Ah, c'est une hypothèse. Tout à fait...
Eh oui, c'est une hypothèse parce que...
On ne sait pas s'il parlait.
Toujours est-il que la théorie de Lieberman était fausse, c'est-à-dire que la démonstration qu'il ne parlait pas était fausse, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il parlait. Ils avaient une anatomie qui était tout à fait comparable à la nôtre concernant le pharynx et l'osioïde, à part cette différence au niveau prognathisme. Mais est-ce qu'il parlait ? Tout ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a eu des rencontres très, très intimes entre Néandertal et puis Homo sapiens, que vraisemblablement, étant donné qu'ils enterraient leurs morts, étant donné qu'ils avaient certaines activités qui nécessitent effectivement des échanges peut-être un peu complexes, on peut supposer qu'ils parlaient. Mais personne n'a encore fait la preuve qu'ils parlaient réellement et surtout quelle langue ils parlaient. Par contre, étant donné qu'on connaît bien les langues du monde maintenant sur des milliers de sons qui sont produits par les langues du monde, et les quelques dizaines qui sont le plus produits fréquemment, on n'a pas beaucoup de chance de se tromper en disant qu'ils produisaient des bœufs, des gueux et des deux oui. et des a.
Et oui, c'est ça, parce que voilà, parmi les voyelles primordiales, on l'a bien compris, qui sont les plus éloignées, les plus distinctes, il y a a, i, ou, et dans les voyelles, ça serait bœufs, de, gueux, c'est pas ma et pas.
Dans les consonnes.
Dans les consonnes, pardon. Dans les consonnes.
Voilà, ce serait bœufs, de gueux, peut-être que, feuze, che, feuze, je. Mene-le, voilà, c'est des consonnes qui sont assez fréquentes, pardon, pas ce jeu, excusez-moi.
D'ailleurs, c'était très frappant dans l'exemple que vous avez fait entendre tout à l'heure. Hein, on ne va pas le réécouter, mais si on se rappelle en mémoire de ce que vous avez fait entendre tout à l'heure avec le bestiaire de phrases dans toutes les langues, et on entendait de manière très récurrente des bœufs de gueux, des peu de queue, des meux et des nœuds, et puis aussi des œufs et des deux. C'est-à-dire, en gros, chaque fois des gestes qui sont ce qu'on appelle des consonnes et qui sont faits en remontant. En fermant la bouche, en fait, une consonne, pour faire une consonne, faire une voyelle, il faut ouvrir la bouche et poser sa langue et ses lèvres de la bonne manière. Et puis faire une consonne, c'est faire une action de moduler la voyelle en allant fermer la bouche ou presque la fermer. Si on la ferme complètement, on a ce qu'on appelle des plosives, be de gueux, peut de queue. Si on la ferme pas complètement, on a ce qu'on appelle des fricatifs, se, ze, che. Et puis on tombe sur des lieux privilégiés pour faire des sons les plus nets, les plus contrastés. C'est les mêmes principes. On a d'ailleurs montré avec Louis-Jean et un autre collègue, Tom Sawallis, qui est aussi d'ailleurs un des fers de lance du papier Science Advances, et avec Pierre Badin, un quatrième collègue, qu'on pouvait expliquer comme ça que be de gueux ou peut de queue étaient sans doute les meilleures consonnes, de la même manière que aïe ou sont les meilleures voyelles. Donc on a toujours ce même principe que faire de la parole, c'est changer les positions de la bouche, il faut le faire de manière optimale, efficace acoustiquement et avec des principes de contrôle qui permettent de le faire efficacement.
Il n'y a pas d'enregistrement, vous l'avez bien dit, c'est une hypothèse, pas d'enregistrement de ces sons, pas d'enregistrement fossile, mais ça n'empêche pas d'imaginer, ça n'empêche pas la fiction. Je vous propose d'écouter juste pour le plaisir un petit extrait du faux vrai documentaire de Franck Bessière pour France Culture, auquel vous avez participé d'ailleurs, Louis-Jean Bouet, Fossiles sonores.
C'est une expérience préhistorique, l'équivalent de poser une oreille sur le mur d'une grotte et de fermer les yeux. Il a été possible d'extraire les sons de peintures rupestres. Les voix que vous allez entendre ont plusieurs millénaires. Un atelier de création radiophonique de Franck Bessière, parti enregistrer dans des grottes, pour reconstituer au plus près l'univers, les vies, les voix de l'homme de Néandertal.
Alors là, on entend le son tel qu'on l'a découvert. C'est le son brut, original. Et là, c'est après des heures d'application des bons filtres, on arrive à distinguer et vraiment à avoir séparément les voix humaines sur lesquelles on a travaillé ensuite.
Narnatsu.
Ces fossiles sonores n'existent pas, hein. Évidemment, on le précise bien à nos amis auditeurs, il s'agit d'une fiction. Mais vous avez tout de même conseillé un peu Franck Bessière, je crois, dans le choix de ses sons, Louis-Jean Boé.
Oui, écoutez, j'ai pas trop pris de risque. C'est-à-dire que... Non, pas trop, non. En fait, bon, j'ai proposé les sons de base les plus fréquents dans les langues du monde. Bon, c'était une façon de ne pas trop se tromper si, effectivement, Nendert a parlé, voilà.
Oui, ça on ne sait pas.
En insistant bien sur le fait qu'effectivement, il est de facto impossible d'imaginer que les peintures rupestres aient été des micro-sillons ayant enregistré la voix humaine, comme Georges Charpak en avait émis l'hypothèse à un moment donné.
Oui, ça serait trop beau.
On est vraiment dans la fiction totale. Voilà. Il faut vraiment clarifier ça pour les auditeurs.
Bien sûr, absolument. On est dans la fiction, on est dans l'imagination, dans l'imaginaire totalement. Est-ce que par rapport aux voyelles, aux consonnes, donc les plus usitées dans toutes les langues du monde, et qui sont les plus distinctes, on l'a bien compris, est-ce qu'on retrouve ça aussi chez les animaux, chez les babouins, chez les primates? Est-ce que ce sont les mêmes genres de sons qu'ils produisent entre eux, ou est-ce que c'est une recherche que vous avez faite? Ou...
Alors, il faut quand même parcourir un long moment de la recherche. Dans un premier temps, donc, Lieberman, en 1969, avec un spécialiste des enfants en particulier, et puis avec un spécialiste d'informatique, essaye de reconstruire les sons produits par des macaques, par des rhésus, par des chimpanzés, et à partir du cours du vocal. Et il s'aperçoit que, il essaye de démontrer que ces conduits vocaux ne peuvent pas produire IAU. Donc, si vous voulez, c'est la doxa qui va être prise par les primatologues. Et donc, lorsque nous démarrons les études pour essayer de montrer que la théorie de Lieberman, qui est sur trois pieds, eh bien, boite très sérieusement. D'abord, ça boite au niveau de Néandertal, dans la mesure où la reconstruction de son conduit qu'il avait faite, elle était biaisée. C'est-à-dire qu'il avait mis un larynx très très haut à l'époque. Mais même, on démontrera après que même s'il était un peu plus haut, ça n'aurait pas changé les choses. Mais enfin, il était comme nous. Et ensuite, on a travaillé sur les bébés. Et bien, on a montré effectivement que les bébés, très, très précocement, à partir de 7 mois, petit à petit, font des voyelles qui se rapprochent de IAU, pour finir par les atteindre. Mais il restait les singes. Et là, on a eu la chance. Vous savez, la recherche, c'est quand même, en équipe, c'est quand même beaucoup de chance et aussi beaucoup de convivialité. On a eu la chance de tomber sur Joël Fagot, qui justement, avec des babouins. Et donc, il a fallu essayer de montrer que le conduit vocal des babouins avait été modifié et que les sons dont vous avez fait entendre les barques et puis les copulations de col étaient associées à d'autres sons, par exemple les yaks, les waou. Et là, waou était très intéressant dans la mesure où vous avez déjà une semi-consonne avec un e, vous avez un a, et puis vous avez un ou.
Donc
vous
avez deux syllabes. Vous avez un...
Voilà, waou. Et que ce waou, d'ailleurs, est produit de façon très complexe, puisque le est aspiré et le ou est produit comme nous produisons les sons, donc ça fait quelque chose comme ou, donc avec deux syllabes et avec une consonne, une semi-consonne. Donc il a fallu effectivement faire la preuve au niveau acoustique que, contrairement à ce qu'a dit Lieberman, ce n'était pas une voyelle neutre. La voyelle neutre, c'est quelque chose comme e qui était produit, mais c'était bien une différenciation de la position du conduit vocal. Et ça a été l'objet d'une première publication dans PLOS ONE en 2016, donc montrant que les babouins étaient capables de faire effectivement 5-6 voyelles, non, 5-6 vol-like, c'est-à-dire des sons qui ressemblent à des voyelles. Voilà, qui ressemblent à des voyelles, voilà. Et donc ça, c'était le
Et avec une intentionnalité, qui signifie quelque chose.
Alors justement... Hein. Voilà, je vous ai parlé des intentionnalités, les grottes, on en a parlé, les copulations de col, on en a parlé, les waou, si vous voulez, ce sont des interactions entre groupes à la chasse de femelles ou d'interactions agressives avec d'autres mâles. Les yaks, c'est quand un individu est menacé, est en détresse, et les barques, c'est une réaction à des dangers humains ou à des prédateurs. Donc c'est, et puis, effectivement, il y a les vervettes, dont Jean-Luc, tu connais bien l'histoire.
Oui, ces cris peuvent aller jusqu'à être des cris qui permettent au singe vervé, par exemple, d'indiquer des dangers différents, qui sont un danger qui vient du haut comme un aigle, un danger qui vient de face comme un lion, un danger qui vient du sol comme un serpent. Donc on a vraiment des vocalisations qui sont avec une signification et qui
oui,
appelle des
un
comportements
vrai sens,
spécifiques.
Hein. Voilà. Bon, voilà. Du coup, j'ai l'impression que vous parlez presque babouin ou chimpanzé, mais quand vous nous dites que ça remonte aussi loin, quand vous secouez vraiment tout le cocotier de nos certitudes en démontrant que la parole est bien plus ancienne que nous, les Homo sapiens, jusqu'où faut-il remonter? Nouvelle question pour vous, soulevée par mon confrère Thomas Cavaillé-Foll de Science et Vie.
Alors j'ai cru voir dans votre étude que, en gros, vous repoussiez l'apparition de la parole à plus de 200 000 ans. Donc, cela pourrait-il vouloir dire en fait que donc d'autres espèces humaines comme Denisova, Néandertal pouvaient aussi parler? Et si c'était le cas, qu'en fait notre ancêtre commun pouvait parler aussi? Et donc là, on remonte à bien 600 000 ans, quelque chose comme ça.
Alors jusqu'où vous nous faites remonter pour l'émergence de la parole, Louis-Jean Bouet et Jean-Luc Schwartz?
Alors écoutez, là on rentre dans le domaine de l'hypothétique.
Absolument,
hein. Il faut bien voir que les théories, c'est émettre une hypothèse en attendant que nos petits collègues la démontent. Hein, ça c'est le jeu de la recherche. Donc on va partir de l'hypothèse qui n'est pas que la nôtre, on va partir de l'hypothèse que les vocalisations des singes sont des fossiles audio. Mmh. Les Américains disent des reliques, si vous voulez. Mmh. Donc c'est quelque chose que l'on peut considérer comme ayant été produit par des ancêtres dont nous sommes les descendants, en tout cas des branches dont on s'est séparés, ont été produits il y a longtemps. Donc notre collègue Zuber Bühler, par exemple, considère que des vocalisations de singes différenciées ont été produites il y a 7 millions d'années. C'est-à-dire, à partir du moment où nous nous sommes séparés, oui. Hein, 7 millions...
On est très au-dessus, voilà.
Ah oui, on est très au-dessus, c'est une autre échelle.
Hein. Ah, très au-dessus, oui, voilà. Voilà. Et donc, l'hypothèse sur laquelle on essaye d'avancer, si vous voulez, de la donner à la communauté, puis effectivement de recevoir des réponses, c'est la suivante. En fait, il se trouve que les babouins, on a trouvé des fossiles de babouins. Comme on a trouvé donc des fossiles de Néandertal, comme on trouve des fossiles Toumaï, par exemple, 7 millions d'années. Donc, on a trouvé des fossiles de papiaux. Et nous, on a travaillé sur des papiaux, des babouins. Il y en a beaucoup de babouins. Mm-hmm. Et les babouins sur lesquels on a travaillé avec Joël Fagot sont des papiaux. Et donc, il y a un chercheur qui s'appelle Gilbert, qui a trouvé en 2015, en Afrique du Sud, donc des fossiles de papiaux Angusticeps, qu'il a nommé papio angusticeps. Eh bien, ce sont des papios qui ressemblent tout à fait aux des papios amadrias qu'on trouve donc dans la corne de l'Afrique. Lui l'a trouvé au sud de l'Afrique, mais ces fossiles, dit-il, si on les met dans une collection actuelle de crânes de papios, eh bien, on ne pourra pas les différencier. Et ça se passe il y a 2 millions d'années.
Ce qui veut dire donc que déjà il y a 2 millions d'années, ils vocalisent et c'était les mêmes, à peu près.
Ben, on peut supposer, si vous voulez, que les vocalisations, qui sont assez frustres, si vous voulez, chez les babouins, elles remontent à très loin. Et nous, on les fait remonter à la séparation des babouins de l'arbre duquel nous sommes issus, c'est-à-dire à 20 millions d'années. Donc on dit effectivement, il y a 20 millions d'années, il y avait des babouins. Ces babouins avaient vraisemblablement une anatomie du conduit vocal qui leur ressemble actuellement. Et les sons qu'ils faisaient, ben, ils ne devaient pas être très différents des sons actuels. Bon, c'est une hypothèse.
Allez, domaine des hypothèses, Louis-Jean Bouet, autour de la question « Depuis quand parlons-nous » et puis pour nous dire quoi? Allez, je propose la réponse d'un grand bavard, Philippe Catherine sur RFI, blablabla. Bla, bla.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla, 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 tu parles bla, 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 tu parles, tu meurs, tu parles plus, tu parles, tu meurs, tu parles plus, tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus.
Bla, bla, bla. Philippe Catherine sur RFI, autour de la question « Depuis quand parlons-nous ?» Nous sommes en compagnie des chercheurs Louis-Jean Boé et Jean-Luc Schwartz. Et à propos justement de l'émergence de la parole, cette fois-ci chez les bébés, sur laquelle vous avez travaillé aussi, je propose tout de suite un nouvel éclairage, celui d'une autre chercheuse en sciences cognitives, médaillée d'argent du CNRS, comme vous Jean-Luc Schwartz, Ghislaine Dehaene, qui étudiait le développement des fonctions cognitives chez les bébés. Écoutez ce que Ghislaine Dehaene nous disait ici même, il y a quelques années, sur l'acquisition de la parole et donc du langage chez les bébés.
Évidemment, le nouveau-né ne parle pas, mais le nouveau-né très vite est engagé dans la communication avec l'autre. Il réagit à ses parents, il voit que ses parents aussi réagissent à ce qu'il fait, et très vite, il s'aperçoit qu'il a un instrument de communication en modulant ses cris. Et il s'aperçoit aussi que sa maman émet des sons, et que ces sons ont un rapport aussi avec ce qu'il émet. Et donc, l'ensemble de ces choses font que ce jeu s'institue très vite entre les parents et l'enfant. C'est-à-dire qu'on a ce couple parent-enfant, enfin maman-bébé, où l'un imite l'autre et qui vont permettre au bébé de comprendre comment il doit combiner les sons qu'il fait, puisque sa maman va reprendre de façon un petit peu différente ce qu'il vient de faire, et comment ça peut, tous ces sons qu'il est en train d'émettre, agir sur la communication. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est donc il rentre dans cette communication, mais très vite, à partir de ces sons, il va savoir que ces sons correspondent à une langue, la langue qui l'entoure le plus, bon, pour un bébé monolingue, sa langue maternelle en l'occurrence. Il y a une logique dans la langue, ces langues ne choisissent pas de façon arbitraire les paramètres qu'elles utilisent, la façon dont elles vont combiner les sons. Par exemple, en français, on utilise des sons que n'utilise pas le japonais, on a une modulation des phrases qui ne sont pas la modulation de l'anglais. Et très vite, le bébé va les grouper ensemble.
Et le bébé, il va gazouiller différemment en anglais ou en français ?
Ça a été publié de façon très, très ancienne, en fait, que les bébés commençaient à produire différemment en français et en anglais. Mais ce qui a été publié récemment, c'est que les bébés pleuraient différemment dans les différentes langues. C'est-à-dire que le fait d'entendre cette espèce de mélodie particulière propre à chaque langue fait que ça induit tout le système de production à suivre une certaine orientation. Et donc, les bébés français vont pleurer en appuyant plus sur la fin du pleur, alors que les bébés anglais appuient plus sur le début du pleur. Ça m'a surpris quand j'ai lu ça, mais le papier est très sérieux et effectivement c'est tout à fait possible qu'on soit comme ça, modulé par l'environnement extérieur.
Un petit babillement, un petit gazouillis de bébé. Je crois qu'il est français, mais je ne suis même pas sûre. Ça vous fait réagir? Vous avez travaillé aussi beaucoup sur cette capacité des bébés à vocaliser, quel que soit leur pharynx ou l'élévation de leur larynx.
Oui, non, le portrait de Ghislaine Dehaene est parfaitement clair. Hein. Elle, effectivement, l'article dont elle parle est absolument saisissant. Hein. Je regardais l'article sous les yeux pour retrouver les données, mais c'est vraiment à la naissance, au moment dans les toutes premières heures ou tout premiers jours de la vie, le bébé a déjà des pleurs qui sont façonnés par son environnement.
Ah,
parce qu'évidemment, le bébé, il a aussi entendu la voix de sa mère dans le ventre. Et ça, on sait depuis longtemps que dès la naissance, le bébé reconnaît la voix de sa mère, reconnaît la prosodie de sa langue. Un bébé français va se rendre compte qu'il entend du français ou une langue qui ressemble à du français plutôt qu'une autre langue. Donc oui, le portrait global dressé, il est tout à fait conforme. Et donc pour résumer, hein, le bébé sait produire des sons rapidement, il sait imiter, il sait interagir de plus en plus, il va comprendre que son partenaire, sa maman, son papa interagit avec lui. La maman et le papa va elle-même interagir et imiter le bébé. Et puis peut-être un petit point à rajouter qui est en plein dans la logique de ce qu'on vient de raconter avec Louis-Jean. Le début de la parole chez le bébé, c'est quoi? C'est le moment où, à 7 mois, le bébé va faire ce qu'on appelle du babillage. Et pour que je vous raconte l'histoire en deux mots, voilà.
Oui.
À la naissance, le bébé sait crier. mais il ne sait pas bouger sa bouche en même temps qu'il crie. Et puis parallèlement, il sait bouger sa bouche pour manger, mais dans ces moments-là, il ne crie pas. Et puis, à 7 mois, il va se rendre compte qu'il y a un truc sympa, c'est qu'en même temps qu'il crie, il peut bouger sa bouche, et ça fait « ah, bah, 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 bah », et c'est ce qu'on appelle le babillage.
Et il s'en donne à cœur joie, en général.
La naissance de la parole chez le bébé, il s'en donne à cœur joie, et vous avez les voyelles, vous avez les consonnes, vous avez les syllabes, vous avez la parole qui naît, elle naît à 7 mois, de cette capacité à bouger efficacement son conduit vocal. On reste dans la même histoire.
Ah, c'est absolument fantastique, vos recherches. Oui, 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 Louis-Jean.
Je voulais simplement dire que, en fait, te parler, c'est de passer de ba-ba-ba à bla-bla-bla. Voilà, c'est tout.
Ah, c'est tout. Ouais, finalement, c'est extrêmement simple. Mais jusqu'où vont vous mener vos recherches, justement, sur la parole, l'émergence de la parole, que ce soit chez nos cousins primates, chez nos petits-enfants, chez nos ancêtres néandertals? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'évoquer ce volet-là, mais aujourd'hui, on fait parler des machines. Hein. Il y a les machines qui nous parlent. Donc, tout ça a aussi énormément d'applications possibles, d'intérêts possibles, outre la révolution scientifique que ça produit, hein, vos recherches.
Jusqu'où oui, c'est vous vrai. Allez nous entraîner... un des mystères, enfin un des challenges actuels passionnants, c'est d'essayer de comprendre. Les machines sont de plus en plus puissantes pour apprendre à parler, apprendre à comprendre. En même temps, elles sont puissantes avec une gourmandise en données, en énergie qui est considérable. Mmh. Elles ont besoin de milliers d'heures de paroles enregistrées, labellisées, étiquetées. Le bébé sait faire beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Mmh. Et un challenge qu'il y a actuellement dans plusieurs groupes, et nous on travaille dessus à Grenoble, c'est d'arriver à comprendre comment le bébé peut apprendre à comprendre comment bouger son conduit vocal sans que ses parents lui disent « tu mets ta langue en avant ou en arrière » parce que jamais un papa ou une maman ne dit ça. Mais comment il peut, à partir des sons, comprendre comment il doit bouger sa bouche pour apprendre à parler. Voilà, c'est un joli mystère sur lequel on essaie de travailler.
Magnifique mystère, tellement humain, justement, comment passer du baba au blabla, quoi. Merci infiniment à tous les deux, Jean-Luc Schwarz et Louis-Jean Boé, d'avoir été en duplex. Merci vraiment.
Merci à vous.
Depuis les studios donc de France Bleu à Grenoble. Merci infiniment d'avoir partagé toutes vos formidables recherches, découvertes. Ben, vous revenez quand vous voulez nous en parler, hein, puisque nous, à la radio, on se sert beaucoup, beaucoup de nos vocalisations pour nous faire entendre et nous faire comprendre. Merci d'avoir partagé aussi vos interrogations, vos hypothèses sur l'émergence de la parole. Je rappelle que votre étude, donc transdisciplinaire, est parue dans la prestigieuse revue scientifique Science Advances et qu'elle n'a pas fini, à mon avis, de faire parler d'elle. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter à volonté en vous abonnant par exemple à notre podcast. N'hésitez pas à y laisser vos appréciations, vos étoiles et vos commentaires. C'est toujours encourageant. Au plaisir de vous retrouver demain pour parler encore, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous interroger cette fois-ci sur l'incroyable diversité humaine avec le professeur Luis Quintana Murci de l'Institut Pasteur, spécialiste de génétique des populations qui vient d'être nommé professeur au Collège de France sur la nouvelle chaire de génétique humaine et évolution. Tout un programme à suivre ensemble demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité, de votre interactivité, surtout restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.
Ce mardi, vivez